L'Iran a organisé samedi le premier débat télévisé entre les 7 candidats à la prochaine élection présidentielle. Le débat a été retransmis en direct sur la télévision nationale iranienne. Ebrahim Raisi, Mohsen Rezaei, Saïd Jalili, Ali Reza Zakani, Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, Mohsen Mehralizadeh et Nasser Hemmati ont exposé leur programme lors d'un forum de 3 heures. Le premier débat télévisé en direct entre les 7 candidats à la présidentielle de juin en Iran a été marqué par la crise économique. Ebrahim Raisi a souligné l'importance de l'augmentation de la production et de la suppression de tous les obstacles. Raisi soutient que son gouvernement prélèvera des impôts sur le secteur non productif et réduira les impôts sur le secteur de la production. Il a également promis de s'attaquer aux causes profondes de la corruption. Ali Reza Zakani a de son côté déclaré qu'il cherchera à stimuler la production nationale en éliminant les obstacles. Zakani a expliqué que dans son gouvernement, les banques aideraient la production plutôt que de fonctionner comme une rivale. Il a également noté que le pétrole, le gaz, la pétrochimie, les infrastructures ferroviaires, le tourisme, l'agriculture recevraient également une attention particulière en tant que moteur de l'économie. Le candidat à la présidentielle iranienne, Abdel Nasser Hemmati, a déclaré qu'il pensait qu'une répartition équitable des richesses aiderait le pays à surmonter la crise économique actuelle. L'ancien gouverneur de la Banque centrale a également appelé à mettre en œuvre le plus rapidement possible des réformes économiques majeures. Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi a déclaré que l'inflation est la principale cause des difficultés économiques auxquelles les Iraniens sont confrontés ces jours-ci. Le candidat de 50 ans a déclaré que son administration fournirait des réformes budgétaires ainsi que des mécanismes pour résoudre la crise économique du pays. Le candidat réformateur Mohsen Meher Alizadeh a exposé ses plans économiques pour le pays en mettant l'accent sur la production. Il a critiqué la suspension des activités de production et a appelé à la relance de ce secteur. Il a souligné l'importance d'utiliser les opportunités économiques régionales de préparer le terrain pour l'investissement privé. L'autre candidat à la présidence iranienne, Saïd Jalili, a appelé à une bonne approche de l'économie et à l'exécution des plans connexes. Il a ainsi ajouté que les capacités de l'Iran doivent être orientées vers la croissance économique au cours des 4 prochaines années. Et enfin, Mohsen Rezaei a déclaré que le système de gouvernance de l'économie iranienne devait changer. Il s'est engagé à multiplier par 10 les paiements de subventions en espèces s'il est élu président. Il a également promis de stimuler le secteur du tourisme. Il a critiqué l'administration actuelle pour ses politiques économiques et la dévaluation de la monnaie nationale. Il a promis de mettre fin à la gérance du gouvernement dans l'économie. Le prochain débat présidentiel iranien est prévu ce mardi 8 juin. Le dernier débat télévisé aura lieu le 12 juin prochain. Les Iraniens sont appelés aux urnes le 18 juin pour élire un successeur au président Hassan Rouhani.
Lors d'une rencontre avec le PDG de Rushydro, Viktor Kamrin, le ministre iranien de l'énergie, Reza Ardakhanian, a salué la coopération avec l'entreprise dans le domaine des énergies renouvelables, à condition qu'elle soit financée par la Russie. Reza Ardakhanian a rencontré Viktor Kamrin, PDG de Rushydro, une entreprise active dans le domaine des énergies renouvelables. Lors de la rencontre, Ardakhanian s'est félicité de tout potentiel d'investissement et mise en œuvre de projets communs dans les domaines de la géothermie et des énergies renouvelables, à condition que le projet soit financé par la Russie. Les domaines de coopération à cette fin seront examinés par les deux parties. Le ministre de l'Énergie a également invité le PDG de Russe Hydro à se rendre à Téhéran pour établir un groupe de travail conjoint avec la participation de la société iranienne de développement des ressources en eau et en électricité, manière d'explorer les domaines de coopération bilatérale. Le ministre iranien de l'Énergie et le président de la Commission conjointe pour la coopération économique irano-russe ont dirigé mardi soir une délégation en Russie pour assister au 24e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le président de la Chambre de commerce conjointe Iran-Corée du Sud a annoncé la reprise des échanges commerciaux entre les deux pays. Hossein Tanhi a déclaré dimanche que des responsables sud-coréens et des militants économiques avaient eu davantage de visites en Iran ces derniers jours. Les grandes entreprises de la Corée du Sud ont annoncé leur volonté de rejoindre la liste commerciale de l'Iran, a-t-il ajouté. Soulignant que le commerce avec la Corée du Sud devrait débuter dans les 3 à 5 prochains mois, il a précisé « En ce qui concerne l'argent bloqué par la Corée du Sud, il est stipulé qu'au lieu de payer en espèces ou en produits manufacturés, des équipements techniques et des machines de production vont entrer en Iran ». Il a noté que la Corée du Sud était riche en produits techniques, électroniques et pétrochimiques et qu'un grand volume d'échanges dans ce domaine pourrait être mis à l'ordre du jour. Selon la Banque centrale d'Iran, environ 8 milliards de dollars d'argent iranien seraient bloqués dans les banques sud-coréennes. Les économistes considèrent la soumission des responsables de Séoul aux politiques de la Maison Blanche comme la principale raison du blocage des actifs iraniens en Corée du Sud. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié la Journée mondiale de l'environnement de rappel du devoir de chacun d'avoir une terre propre et un environnement sain. Saïd Khatibzadeh a tweeté samedi à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement est un rappel du devoir de chacun d'entre nous d'avoir une terre propre et un environnement sain. Il a ajouté « Notre environnement endommagé ne sera réparé qu'avec des plans locaux prudents, une coopération mondiale et le respect des obligations internationales communes. » Le 5 juin de chaque année est désigné par les Nations Unies comme la Journée mondiale de l'environnement. La lutte entreprise pour la libération de la Palestine des mains des sionistes soutenus par les grandes puissances hégémoniques avec à leur tête le grand Satan, les États-Unis, a connu des hauts et des bas. Cette lutte a pris des tournants décisifs évidents dans l'intérêt de cette libération tant attendue. Naturellement, plusieurs questions s'opposent autour de ce sujet. Quelle est l'origine du conflit au cas où quelqu'un ne le saurait pas? Quelle forme prend cette confrontation? Quelles en sont les forces antagonistes? Quelles sont les perspectives à attendre dans l'avenir? Pour répondre à ces questions, il est très important de jeter un coup d'œil bref et rapide sur l'histoire qu'a connue notre région, qu'il faut nommer, comme avant et comme toujours, l'Orient arabe et non le Moyen-Orient, comme divulguent les Occidentaux bien avant la création du soi-disant État d'Israël en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, ni en 1917, la date de la maudite promesse de Balfour mise en avant vers 1897 lors du congrès de Bâle. Le premier congrès sioniste se réunit à Bâle en Suisse du 29 au 31 août 1897 et marque le tournant décisif dans l'histoire du mouvement des amants de Sion qui devient officiellement mouvement sioniste politique. Herzl y propose son programme qu'il qualifie de plan de réunification nationale juive. Un grand conseil composé de 15 membres y est élu ainsi qu'un conseil restreint de 5 membres. Dans son journal, Herzl écrit « Si je devais résumer le congrès de Bâle en un mot, ce serait celui-ci. À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Peut-être dans 5 ans et certainement dans 50 ans, chacun le saura. » Malheureusement, ce projet a pu voir le jour en 1948, après la maudite promesse de Balfour de 1917,
Arthur, qui fut ministre des Affaires étrangères en 1916 à cause de l'appui inconditionnel des forces hégémoniques de l'époque, à savoir la Grande-Bretagne, qui sera relayée par les États-Unis et bien sûr avec l'alliance totale de tous les pays européens, y compris l'Union soviétique de l'époque, qui fut le premier pays à reconnaître le vol de la terre des Palestiniens. L'entité sioniste s'est fondée à l'instar des États-Unis d'Amérique. Des Européens ont colonisé le continent qui fut nommé plus tard par Amérique par l'extermination de la population indigène, à savoir les Indiens rouges. Des mensonges et des complots à n'en finir et surtout des massacres ont accompagné la création de cet État. L'histoire regorge de récits de ces atrocités barbares perpétrées par ce qu'ils se prétendent être des démocraties. De surcroît, pour faire réussir leur fomentation, les sionistes, aidés par les grandes forces hégémoniques, ont contrôlé et contrôlent toujours les médias mondiaux à travers lesquels ils organisent des campagnes pour tromper l'opinion internationale qui va adhérer à leur cause, faute d'opinion opposée entendue. Il faut dire que tout était et est toujours bien programmé. On lance à longueur de temps de diffusion sur tous les médias des messages, des films, des débats, des documentaires faussement préparés et financés en largesse de façon à ce que toutes les populations croient en ce grand mensonge. Tout est fondé sur des mythes. En présentant son livre « Israël, parlons-en », le journaliste belge Michel Collomb raconte qu'il a interviewé des gens dans les rues de Bruxelles pour savoir ce qu'ils savent de l'État d'Israël. Eh bien, il constate que personne ne sait la vérité, personne n'est au courant du grand mythe construit pour inculquer dans les esprits de tous et surtout ceux des peuples européens et américains que ce qu'on appelle Israël est le seul pays démocratique dans la région et qu'il faut protéger. À son arrivée au pouvoir, le président français Emmanuel Macron a instauré une loi qui incrimine tous ceux qui critiquent le sionisme. Or, chacun sait que le sionisme est un mouvement politique fondé sur l'expropriation des terres et l'extermination du peuple palestinien et le remplacer par des colons juifs. Actuellement en France, dans la loi, critiquer le sionisme est taxé d'antisémitisme. Le comble de l'absurdité et de la négation des valeurs fondamentales sur lesquelles se base la Constitution de la France, à savoir liberté, égalité et fraternité. On nous chante dans ce pays qui sont démocratiques. C'est la démocratie entre voleurs pour continuer à voler. Des exemples de l'absurdité et le non-sens foisonnent dans l'histoire de la France, comme exemple, et cela s'applique à tout l'Occident. Dans son livre « Les mythes fondateurs de l'État d'Israël », le penseur et philosophe Roger Garaudy décortique savamment les mensonges autour desquels l'entité sioniste s'est fondée. Son ami, l'abbé Pierre, qui était la personnalité la plus aimée des Français, a demandé qu'on voit de près les informations données par Garaudy. Résultat, les médias, contrôlés par les sionistes, ont lancé une propagande mensongère l'accusant d'antisémitisme à tel point qu'il a dû fuir la France et se réfugier en Italie tellement persécuté. Tout récemment, deux exemples tout frais. Le premier vient de la part du ministre de l'Intérieur actuel, Gérard Darmanin, qui a interdit une manifestation pro-palestinienne à Paris contre le bombardement des civils à Gaza, des enfants, des vieillards et des femmes qui sont ensevelis sous les décombres de leurs maisons détruites par l'aviation de chasse sioniste. Quel prétexte? Je vais interdire cette manifestation parce qu'on ne veut pas de manifestation de haine, une manifestation antisémite, a-t-il dit. Le deuxième exemple est lorsque l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, a arboré la façade de sa mairie avec le drapeau israélien sous prétexte de soutenir une grande démocratie qu'est Israël, selon lui. Quelle absurdité! Si on veut défendre les faibles qui n'ont pas de moyens pour se défendre, eh bien, c'est de l'antisémitisme ou c'est de la haine. Que sont devenues les grandes valeurs de la France? Pourquoi cette dégradation dans les esprits? Ne cherchez pas beaucoup, c'est la propagande sioniste appuyée par tous les médias du monde, presque et surtout les médias américains. Les USA non seulement appuient médiatiquement l'entité israélienne, mais lui procurent tout. Armement de tout genre, appui financier et politique dans les instances internationales et auprès des autres pays. Imaginez qu'un pays soumis à des sanctions quelconques, il peut s'en affranchir rien que par son rapprochement avec Israël. L'exemple du Soudan et plein d'autres pays dans le monde. À croire sincèrement que certaines personnes dans n'importe quel pays du monde ne peuvent accéder dans leur propre pays à aucun poste important, que ce soit politique, médiatique ou autre, qu'avec l'aval des services secrets américains et le pouvoir du lobby médiatico-financier sioniste. En conclusion, la première arme qu'il faut entretenir et répandre pour contrebalancer cette hégémonie, ce sont les médias. Il faut les combattre avec les mêmes armes, sans oublier la constitution de lobbies de pression, comme font les sionistes dans le monde entier. Toute personne libre dans le monde est invitée à s'investir dans des groupes pour défendre et expliquer la part encore inconnue de la cause palestinienne chez les Occidentaux. L'espoir est toujours devant nous, il ne faut pas lâcher. Il faut que le combat continue jusqu'à la libération totale de la Palestine. Tout humain libre est concerné. Toute la nation arabo-musulmane est concernée, avec en tête l'Iran et tous les pays de l'axe de la résistance. Les courbes sont désormais bien définies. L'ennemi sioniste se trouve sur une pente descendante, tandis que l'axe de la résistance est en pleine ascendance. La dernière bataille à Gaza présente les prémices de la victoire divine finale tant attendue. On priera prochainement dans la mosquée Al-Aqsa de la Terre Sainte, la Palestine. Cette victoire s'est réalisée grâce à la résistance des Palestiniens et à l'appui inconditionnel de grands hommes, à l'instar de Sayed Hassan Nasrallah, le secrétaire général de la résistance islamique au Liban, le Hezbollah, et du grand martyr Qassem Soleimani.